En tout cas, je suis content d'être de nouveau parmi vous. Après une semaine en Alsace, je suis rentré hier et ça me fait le plaisir de vous retrouver. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont ici pour la première fois? Oui, bienvenue parmi nous. J'ai remarqué qu'Anthony et Claudia sont là. Peut-être vous étiez là dimanche dernier déjà. Oui, d'accord, donc autant pour moi. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ton amour envers nous. Merci parce que tu es toujours prêt à nous recevoir auprès de toi. Nous voulons vraiment, ce matin, nous tourner vers toi et faire tout ce que nous avons à faire pour te recevoir comme notre sauveur personnel. Amen. Alors, nous sommes à l'aube d'une nouvelle année. Cette année sera peut-être une année semblable à la précédente. Elle sera peut-être une année où on essaiera de s'en sortir pas trop mal en essayant d'aider les autres. Peut-être en essayant d'être une bonne personne. Une personne sur qui on peut compter. Peut-être même qu'on a décidé d'aller de temps en temps à l'église. Ça ne peut pas faire de mal. Mais est-ce que c'est vraiment ça que Dieu attend de nous? De nous tous, y compris moi? Je vais essayer de nous poser cette question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu ne veut pas des personnes qui simplement essayent de faire le bien, d'améliorer leur vie pour devenir de mieux en mieux. Le Seigneur veut vraiment changer notre vie. Le Seigneur est radicalement différent de nous. Il n'y a pas en lui, nous dit la Bible, la moindre trace de mal. Je cite le verset 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Dieu est lumière, il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Alors au départ, c'est vrai, nous avons été créés à son image. Donc on peut dire, puisqu'on a été créé à son image, il n'y a aucune trace de ténèbres en nous. Ça serait logique. Le problème, c'est que nous avons corrompu cette image par la suite. Je pense qu'aucun de nous, si nous nous examinons, aucun de nous pourrait dire honnêtement qu'il est parfait. En tout cas, moi, je ne pourrais pas dire, je l'avoue. Je m'efforce d'être le mieux possible, mais je dois reconnaître que je n'arrive pas à être parfait. À cause de cette corruption, de cette impureté qui est en nous, il y a une séparation entre le Dieu saint, qui lui est parfait, et puis nous, qui sommes imparfaits. Dieu est tellement différent de nous qu'il ne peut que dire ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix. En fait, j'ai cité ces versets bien connus de Ésaïe 55. Dieu est vraiment totalement différent de nous. Et nous avons beau essayer de l'imiter, nous n'y arrivons pas. La Bible dit encore en plusieurs endroits, il n'y a aucun, aucune personne qui fasse bien, pas même un seul, pas même une seule personne. Ce passage se trouve dans les psaumes 14 et 53 et dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains. En tout cas, il est impossible pour nous d'améliorer notre vie pour essayer de devenir des gens parfaits que Dieu accueillerait auprès de lui. Ce n'est pas comme ça. On ne peut pas essayer de devenir parfait pour nous réconcilier avec Dieu. Ça, c'est une mauvaise méthode. Pourtant, nous savons que l'être humain a besoin de Dieu. Quand on est, par exemple, devant la maladie, je l'ai été, je sais de quoi je parle. Quand on est devant la mort, là aussi je l'ai été. On sent bien qu'il y a quelque chose qui nous dépasse complètement. Quelque chose qui est bien plus grand que nous. Vous connaissez Blaise Pascal, le fameux philosophe, théologien, puis un tas d'autres choses au cœur. Il a vécu au XVIIe siècle et il le disait ainsi. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. C'est comme une pièce de puzzle qui irait exactement dans ce vide que Dieu seul pourrait combler. Comment pouvons-nous combler ce besoin de Dieu dans notre vie? On vient de voir que ce n'est pas en faisant le bien. Alors comment peut-on faire? Peut-être que c'est en allant plus souvent à l'église. Peut-être. Ce n'est pas sûr. Dans l'Ancien Testament, ce qui tenait le rôle d'église, c'était le tabernacle, puis le temple de Jérusalem. Le peuple y venait pour entretenir sa relation avec Dieu, pour offrir des sacrifices, pour essayer de rétablir cette relation avec Dieu. Ça marchait, mais pour un temps limité seulement. Et au prochain écart, il fallait à nouveau revenir offrir un sacrifice, et puis un autre, et ainsi de suite. Donc, d'après l'Ancien Testament, ce n'est pas en venant régulièrement au temple qu'on arrivait à rétablir sa relation avec Dieu, en tout cas pas de manière durable. Si nous regardons le Nouveau Testament, il y avait différentes catégories de juifs, ceux qui étaient, me semble-t-il, les plus habitués du temple, ceux qui venaient le plus souvent. Les religions, entre guillemets, de l'époque, c'était les pharisiens. Alors, je précise une chose, les pharisiens n'étaient pas des prêtres. C'était un groupe religieux et politique de gens qui étaient particulièrement fervents et pieux. Il y avait aussi les scribes. Les scribes, on les appelle parfois docteurs de la loi. Ils étaient enseignants de la loi, en fait. Ils étaient eux-mêmes orgueilleux. Ils étaient fiers de leur savoir. Et à force de parler de la loi, ils oubliaient qu'elle devait être au service des hommes et non l'inverse. Leur cœur était fermé au message d'amour de Jésus. Puissions-nous ne pas réagir de cette manière-là? En tout cas, quand on voit de quelle manière Jésus les traitait, par exemple dans Matthieu 23, verset 33, Il leur dit, serpent, espèce de vipère. C'est fort comme terme. Vous ne pourrez pas éviter la punition de Dieu. En tout cas, on comprend que Jésus ne les portait pas dans son cœur. Donc, en tout cas, d'après ces exemples, ce n'est pas en venant au temple régulièrement qu'on pouvait arranger ses relations avec Dieu. Je crois que maintenant encore, ça, c'est quelque chose de bien de venir au temple. Mais ce n'est pas forcément ça qui va arranger notre relation avec Dieu. Comment peut-on le faire? Eh bien, il nous faut comprendre que par nous-mêmes, ça nous est impossible. Nous sommes incapables de combler ce fossé entre Dieu et nous. Seul Dieu lui-même peut le faire. Parce que la Bible nous dit que Dieu est amour. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » C'est une promesse extraordinaire. Dieu est amour, Dieu m'aime personnellement. Le jour où j'ai compris ça, ça m'a bouleversé. Dieu est amour, Dieu nous aime chacun, chacune. Il est important pour nous de comprendre que seul Dieu a la possibilité de rétablir cette relation entre lui et nous. Nous ne pouvons rien faire pour ça. Nous ne pouvons que accepter ce fait qu'il est là. Nous ne pouvons rien faire, c'est uniquement Dieu qui peut faire quelque chose. Tout ce que nous savons faire, c'est reconnaître que malgré tous nos efforts, nous n'arrivons rien. Nous pouvons dire à Dieu que nous regrettons notre impureté, notre péché, et nous avons besoin de lui. Le seul motif de la grâce de Dieu envers son peuple, envers vous et envers moi, envers nous tous, ce n'est pas autre chose que son bon vouloir, son amour. C'est parce que Dieu nous aime, chacun, chacune. C'est pour cela qu'il a décidé de rétablir cette relation entre lui et nous. Je lis ce verset de Ésaïe 43 au verset 25. C'est moi seul qui, de moi-même, efface tes transgressions. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dans d'autres traductions, Dieu nous dit, parce que je le veux bien. Ce n'est pas une publicité, hein. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. En tout cas, Dieu a décidé de nous aimer, de rétablir cette relation entre lui et nous. Par égard, pour moi-même, nous est-il encore dans une autre traduction. Israël a été choisi. Nous-mêmes, nous avons été choisis. Non pas pour nos qualités, non pas pour notre valeur propre, mais simplement parce que Dieu nous aime et l'a choisi de mettre en pratique son amour pour son peuple et pour chacun, chacune de nous. Nous sommes aujourd'hui au bénéfice de cet amour. Et c'est ce qui nous permet de voir l'avenir avec espérance. Donc finalement, notre réponse à son amour, notre décision de le suivre et de vivre pour lui, ne sont rien d'autre que le résultat de l'œuvre de Dieu, qui a choisi d'aller jusque vous de son amour pour nous en donnant son Fils Jésus pour nous. La vraie raison de notre salut n'est pas en nous, mais en Dieu, c'est lui-même qui a décidé de rétablir cette relation. C'est lui qui a choisi de nous sauver gratuitement, sans aucun mérite de notre part. Nous sommes à la fin d'une année. Une nouvelle année va bientôt commencer. Gardons-nous de l'avoir comme une année semblable à la précédente, une année, simplement une année de plus, comme ça a été le cas pour tous les autres qu'on a vécu jusqu'ici, avec des hauts et des bas. Alors certes, il y en aura. Mais en tout cas, c'est à nous de voir cette année, non pas comme toutes les autres, mais comme une année nouvelle, une année de renouvellement. Une année que je choisis de vivre avec la certitude que Dieu est avec moi, que Jésus me renouvelle. Une année qui marque le début d'une vie nouvelle. Une année où je dirai à Dieu, c'est vrai Seigneur, je le reconnais, je regrette tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, j'ai essayé de combler peut-être ce vide entre toi et moi, mais je reconnais que je n'y arrive pas. J'ai besoin de ton aide, Jésus. J'ai besoin de toi pour vivre cette vie nouvelle. Cette nouvelle année qui va bientôt commencer, je veux la vivre avec toi, Jésus, parce que toi, tu m'aimes. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, je te remercie parce que ton amour envers moi a été quelque chose qui a bouleversé ma vie. Tu as fait de moi un serviteur, une nouvelle créature. Ce n'est pas par mes efforts, ce n'est pas par mes tentatives de faire le bien que j'ai pu combler ce fossé entre toi et moi. C'est uniquement en comptant sur ton amour. Parce que toi, Jésus, tu as tout fait. Tu m'aimes d'un amour profond. Amen.